Et sans plus tarder, les invités de la semaine. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Vous venez
Bonsoir.
En tant que représentante. Safia Haït Ouarabi est représentant Romain Montbert-Soussan de l'association SOS Racisme. Merci d'être là ce soir. Merci d'avoir accepté cette invitation. On vous reçoit parce que vous avez encore une fois mené des testings pour voir si finalement c'était compliqué lorsqu'on était racisé en France d'avoir notamment accès à des lieux de loisirs comme les boîtes de nuit. Un testing, c'est quoi ?
Alors, pour résumer simplement, c'est un outil juridique sur lequel nous, on se repose pour prouver justement qu'il y a des discriminations dans l'accès à différents services. Pour expliquer comment ça fonctionne, on va organiser l'entrée, la présentation à l'entrée d'un établissement de plusieurs groupes. Donc, un premier groupe test qui va être composé de personnes issus de l'immigration ou d'origine supposée étrangère. Là, dans le cadre du testing qu'on a réalisé, le premier groupe était un groupe composé de personnes principalement noires, avec ensuite voir comment ils sont reçus et voir comment, ils vont être reçus, avec ensuite un deuxième groupe test en fonction des forces qu'on a en présence. Là, le deuxième groupe en l'occurrence, c'était un groupe de personnes d'origine nord-africaine qui, pareil, se sont présentées à l'entrée de l'établissement, toujours dans un délai assez court pour pas qu'il y ait un changement dans l'affluence de l'établissement. Et ensuite, le dernier groupe, le groupe contrôle, composé principalement de blancs, pour voir comment ils vont être reçus.
C'est des différences de traitement dans l'accueil, etc. Donc ça, c'est des choses que vous avez l'habitude de mener depuis un peu plus d'une dizaine d'années.
Ça fait 20 ans,
ouais,
en réalité.
20 ans, ouais. Ça a commencé dans les années 90.
On a importé exactement cette période, cette méthode dans les années 90. Et en fait, au début des années 2000, on arrive à faire en sorte que ce soit une preuve recevable par la justice. Parce que le testing, c'est un peu là l'enjeu. C'est qu'en fait, quand on est victime de discrimination raciale, qu'on a la sensation d'en être quand on cherche un logement, quand on cherche un taf, quand on va en vacances, quand on veut juste se défouler en boîte de nuit, ça reste toujours une espèce de vague impression. Et en plus, dans une société où on nous dit qu'on n'est pas légitime, en fait, à être victime de racisme, qu'on est trop des victimes, etc.
Parce que l'universalisme républicain,
mais bien évidemment,
tout ça.
Faut pas abuser, wesh, les gars. on a tendance, quand on a une sensation de discrie, à se dire, si tu commences à dire que t'es victime de racisme, on va te dire encore que t'en fais trop. Et en fait, quand on fait des testings et qu'on pose des chiffres là où il n'y en a pas, on reçoit tellement de messages, de mails, de DM sur les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas savoir qu'ils viennent nous dire « Merci, j'étais pas fou, j'étais pas folle. » Donc en fait, ça vient remettre une réalité là où le discours médiatique, politique et les institutions ont fait en sorte de nous faire croire que le racisme et la discrimination raciale, c'était fini. Les choses ont changé. Elles ont évolué, parfois bien, parfois mal. Mais en l'occurrence, ces chiffres, ils sont aussi là pour remettre une réalité.
Avant peut-être de regarder, parce qu'il y a Loopsider qui vous a suivi pendant cette dernière série de testing que vous avez menée là récemment, la semaine dernière, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous avez des chiffres qui permettent d'avoir un regard sur l'évolution des différents testings que vous menez depuis 20 ans? Est-ce que vous arrivez à constater des améliorations? Et si oui, ou sinon, pourquoi d'après vous?
Alors, je sais pas ce que t'en penses, Romain. Moi, je parlerai plus sur les différences de pratiques discriminatoires, parce qu'il y a vraiment des dingueries, mais si t'as des chiffres, je t'en prie.
Alors, on a quelques améliorations qu'on peut apercevoir. Là, en l'occurrence, sur les testings des boîtes de nuit, effectivement, ceux qu'on a réalisés le week-end dernier, on était autour de 20% des établissements qui ont discriminé sur l'ensemble de.
Il y avait combien d'établissements, du coup, vous avez testé?
On a testé, c'était dans 10 villes.
Nationalement, 52 établissements.
Ouais. Ok.
Donc ça reste quand même important. Ça a été beaucoup plus important sur d'autres testings qu'on a fait par le passé. Ça dépend aussi des périodes sur lesquelles on va tester. Donc il y a des améliorations, mais en fait on va remarquer qu'il y a d'autres domaines de testing où ça, en fait, on va avoir des régressions ou des améliorations vraiment minimes. Je pense notamment au testing qu'on avait fait, réaliser un testing inversé sur le logement, où en fait en 3 ans les chiffres étaient à peu près similaires. 3 ans d'intervalle. Donc, pas vraiment d'amélioration et, comme disait Safia, des pratiques qui vont parfois varier.
Là, par exemple, sur les établissements nuit, ce qu'on constate, c'est que du coup, on a fait des testings à Marseille, Montpellier, Toulouse, Bordeaux. Il y a eu Paris, Lille, Mulhouse, Strasbourg, Lyon, Nice, etc. Et en fait, sur 52 établissements testés, on se rend compte que du coup, il y a 20% de discrimination avérée. En sachant qu'on n'a pas compté là où on avait des doutes. Vous voyez, on fait pas les méchants, je sais pas quoi.
Ouais, c'est genre flagrant délit.
C'est genre
en gros,
un flagrant délit. Ouais. C'est-à-dire, pour vous donner un exemple, moi, du coup, les testings, je les ai menés avec l'équipe marseillaise. Coucou Marseille. Et ce qui se passe, c'est que, c'est par exemple, il y a le groupe noir qui va rentrer, on leur dit, faut de la réservation. Le groupe arabe va rentrer, on leur dit, il n'y a plus de place. Le groupe blanc va rentrer avec littéralement une minute d'intervalle entre chaque groupe et on va leur dire, marhaba, vous êtes bienvenus et tout. Donc non, c'est vraiment c'est quand il y a une pratique discriminatoire avérée. On a les preuves, on a les vidéos. Et en fait, ce qui est important, c'est qu'on compte après ces plaintes, après ces testings, porter plainte. Donc là, on est à 20% de discrimination. C'est donc du coup en baisse par rapport au testing et à l'évolution qu'on a constaté ces 20 dernières années. Cependant, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, les pratiques discriminatoires, elles ont évolué. Par exemple, si contrairement aux années 80-90, on va pas, sauf exception, comme je l'ai connu à Marseille, avoir des refus catégoriques sur les populations noires et arabes, par exemple, on va avoir des politiques de quotas par établissement. Mais parce qu'en fait, les testings sont une épée de Damoclès. En fait, ils ont tellement peur de se faire pointer pour racisme et discrimination raciale qu'en fait, on s'est rendu compte qu'ils mettent en place des politiques de quotas où on en met un peu pour pas être suspect quand on passe devant ou qu'on check les signalements Google pour établir nos cartographies de testing. Mais du coup, il en faut pas trop non plus. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'il peut aussi y avoir des discriminations sur la qualité du service. Par exemple, vous êtes noir arabe, vous rentrez dans un établissement, on va vous mettre tout au fond, mais pas à la terrasse. Par exemple, ça, c'est des choses qu'on va tester aussi. L'emplacement des personnes. Parce que faut pas non plus trop de personnes noires arabes issues d'immigration ou asiatiques en fait qui viennent faire la vitrine de l'établissement. Autre pratique discriminatoire que j'ai pu vivre personnellement, c'est par rapport à d'autres groupes, on va vous demander de payer en premier avant même par exemple d'avoir reçu vos consos par peur que vous vous barrez sans payer en fait. Donc il y a autant une discrimination dans l'accès à l'établissement que après la manière dont vous allez être traité dans l'établissement en fait.
Ouais, bien sûr. On va regarder la vidéo justement pour que vous compreniez un peu l'ampleur du problème. Si en régie, vous voulez.
Vous êtes que trois. Regardez, c'est uniquement sur table ce soir. Ouais.
Du coup, on est en retard.
Il faut prendre une table.
Il faut prendre une table.
Oui.
D'accord. Il faut réserver. Bah,
sinon, vous voulez prendre maintenant. Il y a un minimum spend de 1 000 euros.
Bonsoir.
Vous avez des déclarations, messieurs-là? Non. C'est 100 euros l'entrée pour les hommes et 50 euros pour les femmes.
Ici, après. La vidéo est assez courte et très éloquente. Hein. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire de dessin.
Très parlante, juste de ce que je viens de dire.
Ça explique très, très bien ce que vous venez de dire, effectivement. Sacha, tu voulais réagir?
J'ai une question. J'ai vu un commentaire dans le chat auquel je n'adhère absolument pas qui dit « Pourquoi porter plainte? Est-ce que les établissements n'ont pas le droit de choisir leurs clients ?» Est-ce que vous pouvez répondre, s'il vous plaît?
Ouais, bonne question.
En réalité, c'est une bonne et une mauvaise question dans le sens où, en réalité, la sélection, évidemment, sur des critères raciaux, mais en réalité, c'est juste qu'il y a consensus, mais il faut le savoir, hein, sur l'âge et la manière dont vous êtes habillé, en réalité, c'est illégal. C'est illégal, c'est juste qu'en fait, il y a un consensus commun, y compris un consensus des autorités. Et y compris, c'est ça qui est le plus scandaleux, un consensus des autorités administratives et notamment des préfectures. C'est ça, en fait, le plus scandaleux. Et pourquoi porter plainte? C'est aussi parce qu'on s'est rendu compte que la justice, en fait, ne prend pas au sérieux en réalité les questions de racisme et de discrimination raciale. Nous, on a beaucoup de difficultés à faire condamner, par exemple, les établissements ou les entreprises qui commettent de la discrimination raciale. Un exemple, en 2021, sur toutes les plaintes pour discrimination raciale, il y a eu zéro condamnation. Donc aussi, comment dire, secouer le cocotier à la justice... Et en fait, continuer à foutre la pression aussi bien sur l'institution judiciaire que sur les établissements et en fait se vivre comme une double épée de Damoclès, c'est ultra important parce qu'en fait, on va pas non plus dire à la justice « Oh ouais, bah saisissez vous si vous voulez. Hein. » Bon.
On a vu d'ailleurs assez récemment des situations de discrimination qui pouvaient être dénoncées de manière assez spontanée sur les réseaux sociaux. Vous, donc ça fait une vingtaine d'années que vous faites ça à travers les testings, à travers aussi des recours en justice, etc. Est-ce que les réseaux sociaux ont changé votre façon de travailler? Et est-ce que vous trouvez que finalement... le shitstorm que ça peut créer sur les réseaux sociaux auprès d'un établissement quel qu'il soit n'est pas plus efficace qu'une action en justice parfois?
C'est effectivement la question qu'on peut se poser, mais l'important en fait, je pense, c'est qu'il y ait les deux justement. C'est que parce que effectivement, nous, quand on mène des actions en justice, c'est aussi un moyen de faire avancer parfois la jurisprudence et donc faire avancer la justice sur ces questions-là. Donc c'est fondamental, mais effectivement, les réseaux sociaux permettent une visibilité. C'est aussi pour ça que nous, par exemple, en fait, on essaye de médiatiser au maximum ces actions parce que c'est important de mettre ça dans l'espace public. Surtout qu'en fait, on a le sentiment après chaque testing que, en fait, à chaque nouveau testing, les Français redécouvrent qu'il y a des discriminations, qu'il y a du racisme, il y a des indignations qui vont monter et disparaître quelques jours plus tard. Donc, c'est comment on arrive aussi à montrer que non, en fait, le racisme, c'est tout le temps et comment on peut lutter contre ça.
Ouais, bien sûr. Après, moi, j'ai le sentiment, mais qui était partagé par d'autres personnes, sur la banalisation d'un discours raciste au sein des médias, mais aussi dans le milieu politique. Et moi, je trouve ça très inquiétant, parce qu'en fait, j'ai l'impression que le Sarkozy a un peu ouvert la brèche, quoi, en disant « Ok, on va dire tout haut ce qu'on pense tout bas. Genre, on est décomplexé maintenant. » Et je trouve ça super flippant, parce qu'on, enfin, vous l'avez vu comme moi, on a des racistes en roue libre parfois à l'Assemblée nationale. Enfin, c'est quand même très inquiétant. J'imagine que ça peut avoir aussi un impact sur l'opinion publique. Et là, je me tourne vers Monsieur Opinion Publique.
C'est parti, en plus, la transition est nickel. Oui, en effet, il y a des travaux qui sont extrêmement intéressants. C'est ceux qui sont faits par la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Et justement, chaque année, ils vont avoir. Enfin, ça synthétise vraiment tout ce qui peut être fait en termes de perception des discriminations au sein de la population française. Il y a notamment un indicateur qui est fait chaque année pour voir un peu l'évolution de la tolérance de la population française par rapport à différentes minorités. Donc, ça, c'est un indicateur synthétique et ça permet juste, si tu veux, de voir un peu quelle est la tendance. Donc on voit quand même qu'à part des effets un peu de cycle, et notamment qui sont liés aux personnes qui sont au pouvoir, tu vois, sous la période Sarkozy par exemple, il y a une baisse assez nette de la tolérance, mais qu'on est plutôt quand même sur une augmentation de la tolérance. Néanmoins, est-ce que tout va bien ? Non, pas du tout. Et c'est là où, en fait, les nouvelles générations sont beaucoup plus tolérantes que les anciennes générations, mais au sein d'un pays qui est quand même globalement extrêmement intolérant. Parce que si on, pour donner quelques autres chiffres, à l'heure actuelle, il y a quand même 66% des Français qui disent qu'il y a trop d'étrangers en France, 55% qui disent que les immigrés ne font pas suffisamment d'efforts pour s'intégrer, et 62% on ne se sent plus chez soi comme avant. Donc c'est quand même, voilà, il y a vraiment une question qui se pose à ce niveau-là. Et un autre chiffre, c'est le dernier, je te promets,
que
je
j'adore les chiffres
que j'ai retrouvé dans ce, oui c'est ça, enfin c'est les fameux chiffres tiré de mon dernier livre d'ailleurs, si vous voulez l'acheter pour les droits d'auteur, c'est pas mal. Le dernier chiffre, c'est que à l'heure actuelle, dans l'ensemble de la population française, il y a 1,2 million de personnes qui ont déjà subi un événement raciste. 1,2 million de personnes. Et ça montre quand même qu'il y a vraiment une question qui se pose à ce niveau-là et qu'il devrait y avoir une vraie réflexion collective là-dessus. Et quand tu parlais des faits des médias, oui, quand il y a Fox News, CNews, pardon, qui arrive en France, Zemmour qui est en roue arrière pendant toute la campagne présidentielle, c'est sûr que ce n'est pas des bonnes choses à ce niveau-là pour avoir une évolution positive.
Mais d'ailleurs, de manière générale, ça contribue à ce qu'on appelle les crimes de haine, parce qu'on se rend compte que finalement, les crimes de haine en France ne sont pas en baisse, et c'est particulièrement inquiétant. Et ça concerne bien sûr le racisme, mais ça concerne aussi le sexisme, la transphobie, etc. etc. Vous, dans vos pratiques au quotidien, j'imagine que vous êtes la cible de menaces, comme n'importe quel militant et militante antiraciste. Aujourd'hui en France, on voit qu'il y a des permanences d'associations qui sont vandalisées. On voit que l'extrême droite se structure de plus en plus pour
commander. Raphaël Arnaud qui hier s'est fait.
Exactement, j'allais venir. Ouais. Exactement, enfin, qui s'organise de plus en plus pour venir. Bah, Louis Boyard qu'on va recevoir, Boyard, qui a été attaqué, enfin, à l'université de Bordeaux pendant un meeting. Qu'est-ce que ça change vous au quotidien dans votre activité, dans vos actions? Est-ce que vous le ressentez déjà, cette montée de la violence de l'extrême droite?
Ouais. Tout à fait, nous, personnellement. Mais ce qui se passe, c'est que, enfin, moi, je vous remercie de poser ce débat sur la table. Parce qu'en fait, cette montée du racisme, de la xénophobie et surtout de la libération du discours raciste de manière mainstream, en fait, faut comprendre que ça pousse à de la radicalisation. En fait, on nous a parlé pendant très longtemps de radicalisation islamiste, djihadiste, etc. Mais en fait, aujourd'hui, la radicalisation mainstream qui se passe, c'est l'islamisme est un extrême droite. Là, on a une autre extrême droite identitaire qui radicalise de manière mainstream via les grandes chaînes télé françaises, en fait, en France. Et ça pousse nécessairement à des passages à l'acte. Et en fait, quand vous avez des partis d'extrême droite qui montent de manière imminente aussi dans la sphère politique, ça contribue à structurer une impunité des groupuscules fascistes en France. Donc du coup, ce qu'on a, nous, à SOS, c'est qu'il y a plusieurs choses. Vous allez soit avoir des individualités qui vont passer à l'acte et commettre des crimes racistes. Il y en a dernièrement un qui s'est fait condamner dans le nord de la France parce qu'il a assassiné un père de famille maghrébin. Enfin, il y a plein d'histoires qui se passent comme ça dont on a du mal à entendre parler. Aussi parce que les institutions, la justice, vont toujours contourner, par exemple, la caractérisation raciste du crime, par exemple. Et puis, ce qu'on a de manière globale, c'est que, enfin, par exemple, je suis étudiante, et ce qu'on constate, c'est aussi une résurgence des actions de groupes fascistes, en fait, dans les facs. Moi, par exemple, je suis étudiante à Nanterre, et il y a 3 semaines, il y a le GUD qui est venu sur la fac et qui a menacé des femmes voilées, des personnes noires et arabes, qui m'a vu, moi, qui m'a menacée parce que je suis militante antiraciste. Ensuite, donc le GUD est venu 2 fois sur la fac. Il y a la cocarde accompagnée d'un service d'ordre armé qui est venu. Ça s'est passé dans des universités à Bordeaux avec l'Action française, à Aix-en-Provence, à Lyon, etc. Ça reste quand même une extrême droite qui, en tout cas sur Nanterre notamment, tâte le terrain. Ils viennent de manière extrêmement nombreuse. La fois ils sont venus, ils étaient 17. Il y a leur chef, Marc de Cacré, contre qui on est en procès. Enfin, en procès, non, parce que la justice n'avance pas, mais contre qui, enfin, il y a une mise en examen suite à l'agression des militants d'SOS Racisme à Villepinte, qui est venu. Et en fait, on en parlera juste après, mais justement, ils sont dans une dynamique où on se sent monter en puissance parce qu'il faut vraiment rappeler et taper sur la table pour rappeler que l'extrême droite fascisante qui passe à l'acte et l'extrême droite politique, ce sont les deux faces d'une même pièce, quand bien même ils voudraient se donner un vernis social, quand bien même ils voudraient lisser en fait leur apparence et leur discours. Et ce qui se passe, c'est que quand ils arrivent sur les facultés, notamment sur les facultés de banlieue traditionnellement de gauche et antiracistes, ils viennent provoquer et tâter le terrain. Ils n'étaient pas tellement à l'aise en réalité, parce qu'ils sont venus surarmés et très nombreux, mais ça renvoie quand même un message où on a intérêt à faire front uni et à prendre conscience qu'on fait partie d'un même camp social et qu'en période de mobilisation contre la réforme des retraites, contre laquelle SOS Racisme est mobilisé parce que c'est une réforme profondément raciste et sexiste, ben en fait, va falloir faire front uni et ils profitent de cette mobilisation-là pour trouver des militants sur les facs.
La réponse du gouvernement face à ces actions, vous la trouvez satisfaisante ?
Bah non, mais il y en a pas en fait. Il y en a pas. Non, mais enfin, je fais pas la. Non, mais il y en a pas. Non, mais il y en a pas en fait. C'est... Non, mais il y en. Enfin, je sais pas quoi dire à part il y en a pas. Enfin,
il y en a pas.
Attendez, juste Gérald Darmanin a quand même écrit pour l'Action française, ok ? Quand il était étudiant, tout ça, machin. Et ensuite. Même si, par exemple, l'Europe a pointé du doigt qu'aujourd'hui les attentats d'extrême droite étaient une menace imminente, on a un ministère de l'Intérieur qui ne s'en saisit pas. Donc moi, je suis pas surprise au vu de la figure de Darmanin et de ce qu'il incarne, parce que c'est ce que je viens de dire, mais on est en danger. Les militants de gauche, nous sommes en danger.
La dissolution de Génération Identitaire n'a rien changé ?
Ce qui se passe avec les dissolutions, c'est qu'elles sont extrêmement importantes parce qu'elles viennent fragiliser les organisations, par exemple notamment à Lyon, qui peuvent se avoir des locales et donc du coup de fait les affaiblit dans une accumulation structurelle et matérielle. Mais il faut se rappeler qu'une fois qu'il y a dissolution, il y a souvent reconstitution. Par exemple, les Zouaves dont on va parler, je laisserai Romain un peu expliquer, mais qui ont agressé les militants d'SOS Racisme à Villepinte, ont été dissous à la suite de cette agression, mais la plupart sont... parti reconstruire le GUD en novembre 2022 en région parisienne. Donc, et la plupart de ces militants sont fichés S. Moi, maintenant, au-delà des constitutions, c'est comment il n'y a pas de suivi, en fait, alors même qu'ils sont fichés, qu'ils se permettent encore de faire des actions. Marc de Cacré, qui est le chef aujourd'hui du GUD et le chef des Zouaves, donc c'est un chef imminent aujourd'hui dans les structures fascisantes de région parisienne, est un multirécidiviste déjà condamné, mise en examen dans l'agression des militants d'SOS Racisme à Villepinte, mais aussi parce qu'il a lidé les tentatives de ratonnade contre les supporters du Maroc pendant le match France-Espagne, qui aujourd'hui est en liberté. Donc il y a aussi un je m'en foutisme de la justice qui est extrêmement préoccupant. Donc la dissolution n'est pas la solution miracle. Il y a aussi tout un suivi aussi de la justice qui doit se faire et qui aujourd'hui n'est pas là.
Excuse-moi, j'ai juste une question. Tu disais tout à l'heure que la justice et les forces de l'ordre avaient du mal à prendre vos plaintes et tout. Comment ça se caractérise ? Vous allez au commissariat pour porter plainte et on vous dit on refuse de prendre votre plainte parce que c'est pas caractérisé ?
Ce qui se passe, c'est que, par exemple, une fois que les victimes, les familles portent plainte et que nous, on se constitue partie civile, quand SOS Racisme se constitue partie civile, on fait du forcing pour que le caractère raciste soit reconnu. Et en fait, quand le caractère raciste est reconnu dans une procédure, ça permet d'aggraver, en fait, la peine. Et très souvent, c'est ce caractère raciste qui n'est pas reconnu. Donc, les plaintes et tout sont prises, mais c'est ce caractère raciste-là qui pose question.
Je rappelle juste que on va parler justement de cette montée de la violence d'extrême droite avec notre invité politique qui sera Louis Boyard à partir de 21h. Et entre-temps, on aura le PowerPoint de Vincent juste pour parler un peu programmation. Peut-être une autre question quand même assez importante. Vous, concrètement, au quotidien, vos actions en dehors des testings, c'est quoi ? Vous faites du plaidoyer ?
Alors, on fait tout un tas de choses parce que l'association est ancienne et donc il y a une certaine expérience aussi accumulée. On a un pôle éducation populaire donc qui intervient dans les écoles, ce que dénonçait d'ailleurs Éric Zemmour. On vient faire de la propagande, propagande antiraciste dans les écoles, comme si l'antiracisme était quelque chose de mal. Donc, il y a des interventions effectivement dans les milieux scolaires où on vient justement parler d'antiracisme, de la question des discriminations. On s'adresse à des collégiens, à des lycéens, donc c'est pas des choses extrêmement poussées, mais c'est quand même comment on peut apprendre à vivre ensemble, etc. D'où ça vient aussi le racisme, parce que ça vient pas de nulle part. On a donc ce pôle éducation populaire qui vraiment intervient à la fois dans les établissements scolaires, mais aussi dans des structures qui accueillent des jeunes. On fait également un pôle juridique donc qui réalise les testings, mais qui réalise également des permanences téléphoniques de tous les jours de 10h30 à 13h, où les personnes victimes de racisme, d'antisémitisme, de discrimination en quête de conseils peuvent nous contacter.
Est-ce que vous pouvez partager le numéro ou que, par exemple, s'il y a des gens du chat qui ont besoin de...
Tu l'as, t'as ton portable.
Je l'ai pas sur.
Je suis sûr que je le trouve sur Internet.
Oui, il est sur Internet.
Il est sur le site. Très important d'avoir ces données-là. Continuellement, vous êtes libre d'appeler, de laisser des mails, de prendre rendez-vous. On est là pour ça.
S'il y a des gens de SOS Racisme qui regardent le live, n'hésitez pas à le mettre dans le chat.
Merci les camarades. Aidez-nous un petit peu. Mais du coup, on a ce pôle juridique, le pôle éducation populaire. Et au-delà des interventions dans le milieu de jeunesse et du coup de mener des campagnes contre, par exemple, des réformes antisociales, contre la loi immigration, d'avoir un pôle juridique qui va structurer justement toutes ces statistiques et accompagner du coup des personnes, on est une association évidemment mouvementiste et militante, parce qu'en fait on pense aussi que quand bien même on serait force de proposition en fait pour faire changer les choses, pour amener des lois, pour amener une restructuration profonde, en fait on se doute bien que les gouvernements et les institutions ne vont pas juste accepter comme ça et qu'il y a besoin d'un vrai rapport de force militant et sociale. Et c'est pour ça que justement nous avec Romain on s'occupe de la structuration militante dans les milieux de jeunesse et dans les facultés. Il y a énormément de jeunes à SOS Racisme, on est vraiment beaucoup, mais on pense que par exemple avoir une présence dans les facs, ceci signifie à l'extrême droite que vous n'allez rien reconquérir du tout et qu'en fait, on est bien présent.
Merci beaucoup. Je vois qu'on peut trouver toutes les informations en fait sur le site d'SOS Racisme, donc sos-racisme.org, avec le numéro de téléphone, aussi une adresse mail pour pouvoir saisir le service juridique de l'association. Antoine, tu avais une question pour nous inviter et ce sera, je le crains, la dernière.
Oui, en fait, c'était pour revenir un peu sur ce que tu disais, le fait qu'il y a un lien entre les actes racistes violents par des groupuscules et le climat politique général. Et ce que l'on a vu ces dernières années, c'est qu'il y a une porosité en termes de valeurs de plus en plus importante entre la droite classique et l'extrême droite, qui n'existait pas auparavant. Il y avait la volonté, c'était Chirac notamment, de mettre un vrai mur avec l'extrême droite, qui est complètement tombé ces dernières années, où il y a eu une dédiabolisation de Marine Le Pen qui est complètement incroyable. Et faut bien prendre en compte que ce qui existe là dans le débat public, ça peut avoir des conséquences en termes d'ambiance et de climat et des personnes qui vont avoir des questions qui sont extrêmement violentes. Et quand Par exemple, l'attitude de la majorité, elle peut être extrêmement critiquable à ce niveau-là. Quand, au moment des législatives, il y a certains députés qui mettent sur un même plan la NUPES et le Rassemblement national, ou quand il y a des propos de Gérald Darmanin pour dire à Marine Le Pen qu'elle est trop molle, bon, trop molle, ça veut dire qu'il faut faire quoi derrière? Je veux dire, c'est quand même, il y a un vrai climat, il y a une vraie réflexion à avoir plus en profondeur. C'est d'ailleurs l'ami Raphaël Durca qui est là parfois, qui pourrait bien en parler, parce que c'est un peu son thème de spécialité.
Merci beaucoup. Merci à vous deux d'être venus pour nous parler de ces actions que vous menez au quotidien. Merci aussi d'être venus faire de la pédagogie sur les questions et les combats que vous menez. Merci pour votre travail.